donc la parousie, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Écoutez ça, là maintenant les choses importantes. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Car j'ai eu faim, etc. Vous connaissez la suite. « Il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable » et pour ses anges. Voilà, donc, ici, cette parabole, disais-je, est fort mal comprise bien souvent. Enfin, ce n'est pas une parabole, c'est une prophétie, très exactement. Si ce n'est que, bon, il y a cette image de la brebis et des boucs, ça peut être effectivement une parabole. Mais l'ensemble du passage est prophétique. Alors, on dit, ça, c'est le jugement dernier, etc. L'entrée dans l'état éternel. Bon, nous allons voir que cette interprétation est conditionnée par toute une vision, justement, de cette question du millénium. Mais n'anticipons pas. Par contre, il y a deux choses ici que nous pouvons remarquer sur cette prophétie. La première, c'est qu'elle concerne des gens qui n'ont pas une connaissance directe des choses de Dieu, semble-t-il. D'abord, il nous a dit « toutes les nations ». Et ces nations vont donc être jugées sur un critère qui n'est pas la foi en Jésus ou la non-foi en Jésus, mais sur l'attitude qu'ils ont eue envers ceux que Jésus appelle ses frères. Et pour ce qui est des justes, ils sont introduits dans le royaume. Bon, ce royaume est aussi appelé à la fin vie éternelle. Les justes iront à la vie éternelle. Si bien qu'effectivement, on peut penser qu'il y a là aussi quand même quelque chose à voir avec les choses vraiment dernières. Mais on peut aussi remarquer que les petits dont il est question, les plus petits de ses frères, sont une troisième catégorie d'individus qui n'appartiennent ni aux brebis, ni aux boucs, mais qui sont dans une autre dimension, si j'ose dire. Alors, le problème est de savoir qui sont ses frères. Il est certain que il y a là une interprétation qui est traditionnelle et qui n'est pas d'ailleurs entièrement fausse, qui consiste à dire c'est tous ceux qui étaient dans le besoin. Et l'on a exploité plus qu'il n'en fallait cette parole, cette parabole des brebis et des boucs, pour dire que, somme toute, Jésus était dans le petit, dans le pauvre, dans l'opprimé, dans... et que le véritable christianisme, c'était de secourir ces pauvres, ces petits et ces opprimés, et d'y reconnaître la personne de Jésus. Bon, je pense que c'est vraiment aller au-delà de ce que la parabole nous dit, de ce que le texte nous dit, même si c'est vrai, il y a une part de vérité, et nous rejoignons un peu là la parabole du Samaritain, ému de compassion pour celui qui souffre, indifféremment de ce qu'il est. Bon, ça, on est bien d'accord, c'est pas du tout en cause. Mais est-ce que le mot frère, on peut se poser la question et d'aucuns se la posent, est-ce que le mot frère n'a pas une acception aussi plus restreinte? Alors, on dira, mais Jésus s'identifie à ceux qui souffrent. Certes, certes. Mais est-ce que, encore une fois, ce n'est pas encore plus précis. Car si c'était cela, Jésus l'aurait dit. Chaque fois que vous avez fait cela à un de ceux qui souffrent, ceux qui étaient dans le besoin, etc. Mais Jésus ici emploie le mot frère dans un sens très précis. Ses frères, ceux qui croient en lui. Bon, il n'est pas non plus question ici d'exclure absolument ce sens. Mais dans ce cas, on peut penser que Jésus aurait plutôt employé le mot disciple. Ceux qui croient en moi. N'est-ce pas ? D'ailleurs, s'ils le disent, hein, je crois qu'il y a cette idée. Nous avons fait. De ce mes frères. Non, il n'est pas dit qu'il croit en moi. Un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Un de ses plus petits. Bon. Alors, il y a à la fois, c'est effectivement le mot petit, donc ceux qui sont dans le besoin, mais aussi de ses frères. Et c'est le mot frère ici qui est important. Comment ne pas voir dans les frères de Jésus, justement, le peuple d'Israël, le peuple juif? Et c'est assez cohérent avec la parole du Seigneur à Abraham lors de sa vocation. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Et la prophétie concerne ici les nations. Or, ces nations, elles sont jugées sur leur attitude en face du peuple juif, du peuple d'Israël, et notamment des grandes persécutions qui se seront manifestées envers le peuple juif au temps de la fin. Et sur ce critère-là, elles sont déclarées dignes ou indignes d'entrer ou de ne pas entrer dans le royaume messianique, c'est-à-dire dans le millénium. Car il ne faut pas imaginer que l'ensemble de l'humanité sera détruite par les grands jugements qui marqueront la venue du Seigneur. Car alors, il n'y aurait plus évidemment de place pour le royaume messianique lui-même. Bon, l'Église et Israël vont régner avec le Messie pendant 1000 ans. Mais régner sur qui ? Bon. Alors, sur des rebelles ? Non, certes pas. Et avant que ne soit établi le royaume messianique, il y a un tri préalable, un jugement. Et là, vous pourrez prendre de nombreux textes de l'Ancien Testament qui vont absolument dans le même sens. Par exemple, les prophéties de Zacharie, Zacharie 14, où le Seigneur dit que toutes les nations qui resteront après ces grands jugements viendront à Jérusalem se prosterner devant le Seigneur pour la fête de Soukhot. Et ceux qui ne monteront pas pour adorer le Seigneur à la fête de Soukhot, donc ceux qui ne béniront pas Israël, pourrait-on dire, la pluie ne tombera pas sur elle, donc des jugements s'abattront sur elle. Joël, prophétie de Joël, on trouve également ça, n'est-ce pas ? J'entrerai en jugement dans la vallée de Josaphat avec toutes les nations au sujet d'Israël, mon héritage, de ce qu'ils se sont partagés, le jeune Jean, la jeune fille, etc., qu'ils ont vendu pour une prostituée, enfin, vous connaissez le texte. N'est-ce pas ? Donc, ce texte ici est absolument cohérent avec ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Avant l'avènement du royaume messianique, un jugement des nations pour savoir celles qui seront trouvées dignes ou non d'entrer dans le règne messianique, dans le royaume messianique, et le critère du jugement sera l'attitude de ces nations en face du peuple d'Israël. Donc ça, c'est un premier point très important à établir. Maintenant, ce règne messianique nous est aussi décrit, par exemple, dans le psaume 2, repris d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux, où le Seigneur dit que le Seigneur paîtra le Messie qui s'assiera sur le trône de David et qui régnera depuis Sion sa montagne sainte. Ce Messie paîtra les nations avec une verge de fer. Il les brisera comme le fait un potier avec cette verge de fer. Et ici, cette mention du règne messianique indique un règne du Messie qui sera un règne autoritaire. Ce ne sera pas du tout la démocratie, mais un règne autoritaire. Et nous trouvons dans les descriptions du règne messianique, par exemple dans Ésaïe 11 aussi, n'est-ce pas, ce texte que nous avons médité la dernière fois, du souffle de sa bouche, le Messie fera détruire, fera périr le méchant. Et le pécheur qui mourra à 100 ans sera considéré comme mourant jeune. Tiens, c'est intéressant. Le règne messianique, et nous lisons ça dans le livre de l'Apocalypse, est un règne où le diable est lié pour qu'il ne séduise plus les nations. Par conséquent, il n'y a plus de tentateur pendant le règne messianique. Et pourtant, il y a encore le péché. Pourquoi ? Parce que la nature charnelle de l'homme n'est pas encore anéantie, changée, transformée. Et comme le dit l'apôtre Jacques, il n'y a pas toujours besoin d'un tentateur pour induire au péché. Mais il suffit parfois que chacun soit amorcé par sa propre convoitise. Et c'est la raison pour laquelle il y aura des ombres au millénium. Et c'est pourquoi le millénium ne peut pas être considéré comme l'état ultime, mais simplement comme l'état avant-dernier. Il y aura des pécheurs qui, malgré tout, se laisseront regagner par leur nature mauvaise, etc., etc. Mais alors, à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, où le Seigneur use de patience envers le pécheur. Et comme le dit le Seigneur à Moïse dans la révélation après le veau d'or, il est le Seigneur qui supporte le péché et l'iniquité pendant longtemps. La différence entre ce temps-ci et le règne messianique, c'est que dans ce temps-là, le péché ne sera pas toléré. Le pécheur, celui qui se révoltera, sera immédiatement châtié, sera immédiatement mis hors d'état de nuire. Et même, cela pourra aller jusqu'à une sentence de mort, celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme jeune. Ce qui laisse entendre d'ailleurs, entre parenthèses, que la mort ne sera pas entièrement, n'aura pas disparu. Un autre texte nous dit que les jours de mon peuple seront comme les jours de l'arbre. Bon, l'arbre, notamment les oliviers, sont des arbres qui ont une durée de vie considérable, des centaines et des centaines d'années. Il y a en Israël des oliviers qui ont presque 2000 ans. Bon. Alors, ce que veut dire notre texte, c'est que la durée de la vie de l'homme sera considérablement allongé. On peut penser qu'on retrouvera ce qu'était la durée de la vie des patriarches antédiluviens, c'est-à-dire environ un millénaire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la mort aura entièrement disparu pour les habitants de la terre. Car pour les habitants de la terre, ça veut dire justement pour les nations qui ont été jugés dignes d'entrer dans le millénium sur les critères et sur les bases de ce que nous avons défini tout à l'heure, la vie se poursuivra comme elle l'est aujourd'hui. Ça veut dire que les hommes mangeront, boiront, se marieront, seront donnés en mariage, auront des enfants. La grande différence, c'est comme nous l'avons dit, il n'y aura plus de tentateurs. Donc, le péché aura considérablement régressé, et par conséquent, il y aura une transformation de la société tout entière. La paix régnera, la paix universelle. Jésus sera véritablement le prince de la paix, c'est son titre. Et comme nous lisons dans le psaume 72, qui est aussi un psaume messianique, n'est-ce pas, il dominera d'une mer à l'autre et sur le monde entier. Et grande sera la paix à ce moment-là. La paix régnera sur la terre. L'harmonie, nous l'avons vu la dernière fois, y compris avec les animaux. Donc c'est véritablement un retour aux conditions de l'Éden. Mais le dernier ennemi qui sera englouti est la mort. Et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, nous voyons que c'est au tout dernier moment que la mort et le séjour des morts sont engloutis dans le séjour des morts, en quelque sorte. C'est la mort de la mort, n'est-ce pas ? Mais cette mort de la mort, et Paul nous rappelle ça à 1 Corinthiens chapitre 15, n'est-ce pas ? Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds, psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il a tout mis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et quand la mort aura été engloutie dans la victoire, nous dit l'apôtre Paul, alors viendra le temps dernier où Dieu sera tout en tous. Par conséquent, le règne messianique apparaît comme un règne où le Seigneur met les uns après les autres tous ses ennemis sous ses pieds. Donc, avec un règne, avec une verge de fer. Et cela, d'une manière aussi, pourrait-on dire, chronologique, progressive. Et ce retour à l'Éden se fait autour de Jérusalem et du Mont Sion. On retrouve ça aussi dans l'Apocalypse, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Ésaïe 2, la montagne du Temple, cette montagne qui est tellement au centre des débats actuellement, sera élevée au-dessus de toutes les montagnes, et tous les peuples y afflueront. Ils diront, montons à la maison du Dieu de Jacob pour qu'il nous enseigne ses voies, que nous suivions ses sentiers, c'est le fameux texte, de Sion sortira la Torah, de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera l'arbitre de nations nombreuses, de leurs lances, ils forgeront des houillots et de leurs lances et de leurs épées, ils forgeront de leurs lances des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Donc, Jérusalem sera le centre du monde. Toutes les nations y afflueront. Zacharie 14, nous l'évoquions tout à l'heure. Elles viendront tous les ans célébrer à Jérusalem la fête de Soukhot. Et là, le Seigneur leur enseignera ses lois. On peut penser, de fait, et là je rejoins un petit peu, même si je mets beaucoup de bémols, comme je disais tout à l'heure, ce que pensent nos frères dispensationalistes, n'est-ce pas ? Il y aura donc un temple reconstruit, d'une certaine manière, non pas pour y offrir des sacrifices sanglants qui auront une valeur expiatoire, puisqu'il y a un seul sacrifice, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais un endroit où on rencontrera le Seigneur, où le Seigneur régnera, siégera. Et on retrouve une confirmation néo-testamentaire de ces textes. Ça, c'est toujours ce que nos braves frères qui nient le millénium nous reprochent. Mais oui, mais vous prenez toujours vos textes dans l'Ancien Testament. Mais non. L'annonce de la naissance de Jésus à Marie, chapitre 1 de l'Évangile de Luc, l'ange Gabriel qui vient dans une ville de Galilée appelée Nazareth, l'entend dans la maison d'une vierge qui s'appelle Marie, et il lui annonce la naissance du Messie. Il dit ceci, « Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison d'Israël à perpétuité. » Le trône de David, c'est le trône qui est à Jérusalem. Et cette parole est une confirmation des prophéties de l'Ancien Testament, du psaume 2, du psaume 110, de tous les textes qui ont été donnés aussi par Nathan, où le Seigneur promet à David qu'il y aura toujours un descendant qui s'assiera sur son trône, etc. Alors évidemment, nous allons voir ça, sinon aujourd'hui, du moins la prochaine fois, que tout le problème est de savoir comment il faut comprendre ces prophéties. Est-ce qu'il faut les comprendre littéralement ou est-ce qu'il faut les comprendre spirituellement ? Alors si c'est spirituel, disent un certain nombre de nos frères, y compris dans les milieux évangéliques, il n'y a pas besoin d'une reconstruction de Jérusalem. Déjà, le Seigneur est assis sur le trône de David, il règne par sa parole, il règne sur le cœur des croyants, son royaume n'est qu'un royaume spirituel et non pas un royaume terrestre. Déjà, la Torah est sortie de Jérusalem puisque la parole est sortie à la Pentecôte, l'Église est partie de Jérusalem à la Pentecôte, donc toutes ces prophéties sont accomplies, nous n'avons plus d'autres accomplissements à attendre. C'est tout le débat, justement. On verra ce qu'il faut en penser. Bon, pour le moment, prenons les textes tels qu'ils sont. Il est bien évident que quand L'ange a dit à Marie qu'il donnerait à son fils le royaume de David, son père. Marie n'a pas compris un seul instant qu'il s'agissait d'un royaume spirituel, dans une Jérusalem qui serait une Jérusalem céleste, un trône de David qui serait un trône céleste. Le trône de David, quand on parlait du trône de David en Israël en ce temps-là, c'était tout à fait clair. C'était le trône sur lequel, à l'époque, était assis Hérode, qui était considéré justement comme un usurpateur à cause de ça même, qu'il était assis sur le trône de David. Bon. D'ailleurs, il accomplissait la prophétie du Shiloh dans ce domaine. Bien. Donc, il était question d'un rétablissement du trône de David. Bon, Jésus nous dit aussi à ses disciples qu'au rétablissement de toutes choses, Tikkun Olam, dont nous parlons la dernière fois, il serait assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël, juger, ça veut dire les diriger. D'ailleurs, on ne s'est jamais trop demandé pourquoi il y avait 12 apôtres. Ça fait partie du... Ah, il y a 12 apôtres, ben oui, quoi. Mais pourquoi ? Ben, la réponse est claire. Hein. Parce qu'il y a 12 tribus d'Israël. Parce que dans le futur, dans le rétablissement de ce royaume d'Israël que les apôtres attendaient, eh bien, ils auront un rôle fondamental à jouer. Et dans le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, dans la Jérusalem nouvelle, d'ailleurs c'est Jérusalem qui descend du ciel, il y a 12 portes et 12 fondements à ces portes. Et il y a là à la fois le nom des 12 tribus d'Israël, des 12 patriarches et des 12 apôtres. Un apôtre correspond à une tribu. Pourquoi ? Parce que les apôtres sont appelés à devenir les leaders, si j'ose dire, même si c'est un mot que je n'aime pas, de l'Israël messianique, de l'Israël restauré dans ce royaume de David, dans ce trône de David que le Seigneur restaurera. Et l'Église dans tout ça ? Ben, l'Église régnera avec lui, avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'elle aura été enlevée. Alors, elle échappera à la condition humaine. Nous serons ressuscités, mais avec un autre corps que celui des habitants de la terre, des nations. Nous aurons revêtu le corps de gloire, le corps spirituel, qui, encore une fois, je rappelle ça à chaque fois, parce que nous sommes conditionnés par la pensée grecque, spirituel ne signifie pas immatériel. Spirituel signifie seulement que ça vient d'en haut, tandis que terrestre, charnel, c'est ce qui vient d'en bas. C'est un corps qui vient d'en haut, mais qui n'est pas obligatoirement immatériel. N'oublions pas que le corps de Jésus, qui était ce corps spirituel, était en même temps un corps matériel. Les disciples ont touché Jésus après sa résurrection. Il avait de la chair et des os. Il avait la possibilité de manger, non pas qu'il devait manger, mais il pouvait manger, et il l'a fait devant eux pour montrer justement que son corps n'était pas ce que les apôtres disaient qu'il était, c'est-à-dire justement un ectoplasme, une réalité impalpable, non matérielle. Non, non, c'était une réalité matérielle, et c'est un corps spirituel. Donc nous aurons revêtu ce corps-là, un corps qui lui permet justement de se mouvoir dans les deux dimensions, dans le céleste et dans le terrestre. Et la frontière entre la terre et le ciel que nous connaissons aujourd'hui, à cause du péché, cette frontière aura disparu. Et l'Église pourra se mouvoir à la fois dans le domaine céleste et dans le domaine terrestre. Et c'est pourquoi nous régnerons sur la terre et dans le ciel. Et Paul va jusqu'à dire aux Corinthiens, nous jugerons les anges. T'as entendu, les anges déchus, bien sûr. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Et alors, nous voyons justement dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises, cette Église qui est dans le ciel, qui règne dans le ciel avec le Seigneur, mais qui depuis le ciel règne sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on sera obligatoirement localisé sur la terre, mais l'autorité sera exercée sur la terre. N'est-ce pas ? Ce sera justement l'accomplissement du mystère de l'Église. Ce que nous sommes, dit l'apôtre Paul, n'a pas encore été manifesté. Mais au retour de Jésus, la réalité de l'Église, son corps, son épouse, sera pleinement révélé, sera pleinement manifesté. Nous serons semblables à lui, nous le verrons tel qu'il est, donc le corps spirituel dont nous parlions tout à l'heure. Bon. Deuxième point, justement, Israël alors. Vous avez vu premièrement le Messie, il règne depuis Sion, sa montagne sainte. Il règne avec une verge de fer, donc d'une manière autoritaire. L'Église rachetée, transformée, règne avec lui et Israël. Eh bien, Israël a un rôle particulier à jouer pendant cette période-là. Finalement, ce qui a été sa vocation dès le commencement, être la lumière des nations. Alors là, on dira, mais Israël ne l'a-t-il pas été déjà ? Il a donné la Bible au monde, il a donné Jésus, donc son rôle est terminé. Non. Le rôle d'Israël commence à ce moment-là. Pourquoi le Seigneur le rassemble-t-il dans sa terre, si ce n'est parce qu'il a un dessein particulier pour lui, un plan pour lui, un projet ? Alors il faudrait relire des textes comme Ésaïe 60 en particulier, Ésaïe 66, Ésaïe 61, Ésaïe 62, ça, ou Jérusalem, c'est-à-dire Israël, qui prend ici le... Jérusalem, c'est tout Israël, hein, c'est évident. Bon. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive, les rois marchent à ta lumière et des grands à la clarté de tes rayons, etc. Et la vocation d'Israël est alors justement de porter le salut du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Ces nations qui entrent dans le millénium, qui ont eu ce privilège parce qu'elles ont eu des sentiments bienveillants vis-à-vis d'Israël. Bon, les nations, ça veut dire les païens, ce n'est pas des nations en tant qu'entité, c'est des nations en tant qu'individus. Ethné, en grec, comme goyim en hébreu, ça signifie aussi bien les nations que les individus qui composent les nations, c'est-à-dire les non-juifs. Les non-juifs qui vont marcher à la clarté de tes rayons, dit Ésaïe 60, parlant à Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que ces nations, nous l'avons vu tout à l'heure, elles ont une connaissance très limitée des choses de Dieu. Elles ont eu des sentiments bienveillants vis-à-vis du peuple d'Israël pour toutes sortes de raisons. Parfois, comme le Samaritain de la parabole, uniquement par des sentiments humains, naturels, de compassion. Peut-être d'autres parce qu'une vague, peut-être culture chrétienne dont elles se sont souvenues et qui a fait que, ou bien au contraire, les horreurs de la Shoah les ont fait réagir autrement. Bon, toutes sortes de motivations. Mais elles ne connaissent pas véritablement le Dieu d'Israël. Or, il nous est dit ceci, pendant le millénium, la connaissance de l'Éternel remplira toute la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. Bon. Maintenant, au début du millénium, à quoi assistons-nous en ce qui concerne le peuple d'Israël ? Alors, il faut relire la prophétie de Joël. Dans ces temps-là, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Alors, je dis, ça s'est accompli. Ça s'est accompli une première fois à la Pentecôte et ça s'est accompli une deuxième fois au début du siècle qui vient de s'achever. Certes, certes. Mais quand on relit ce texte dans son contexte, ce qu'il faut toujours faire, nous constatons que c'est une prophétie qui concerne le peuple d'Israël. Le toute chair dont il est question dans notre texte, c'est essentiellement le peuple d'Israël. Il y a donc une troisième Pentecôte à attendre. Et cette Pentecôte, elle touchera le peuple d'Israël. Alors on retrouve ce qu'on en lit dans Ézéchiel 37, la troisième étape de la restauration d'Israël, la venue de l'Esprit Saint. Ézéchiel 36 et d'autres textes du même ordre. Il faut attendre une Pentecôte d'Israël. Et ce que finalement, les douze ont fait après la Pentecôte, parce que là aussi, il faut reprendre les textes, puis les replacer dans leur contexte. Quand Jésus leur dit à aux douze, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous disons, « Ah, mais ça concerne tout le monde !» Et c'est une parole qui nous est adressée à nous aujourd'hui. Nous sommes appelés à être les témoins du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour cela, nous recevons l'Esprit Saint, le baptême dans le Saint-Esprit. Bon, je ne dis pas que c'est faux de raisonner comme ça. On peut effectivement, je dirais, par dérivation, le prendre comme ça. Mais si on le prend dans le contexte, Jésus a adressé cette parole à qui ? À ses disciples, aux douze. Et les douze, ils étaient appelés apôtres en ce que justement, et nous avons une définition de l'apostolat des douze dans le premier chapitre du livre des Actes, pour pouvoir être compté au nombre des douze, et il fallait avoir accompagné Jésus depuis le début de son ministère, et avoir été témoin de sa résurrection. Et Pierre déclare à Corneille, et ceux qui sont dans sa maison, qu'à sa résurrection, le Seigneur n'est pas apparu à tout le peuple, mais à des témoins choisis d'avance, pour attester de ces choses devant le peuple et devant tous les peuples. Or, nous ne sommes pas témoins, nous, de ces choses, 2000 ans après. Ni vous ni moi n'avons accompagné le Seigneur depuis le début de son ministère jusqu'à sa résurrection. Et à de rares exceptions près, comme le Sadou Saint d'Arcigue ou d'autres chrétiens du même ordre, nous n'avons pas été témoins de sa résurrection. Alors nous pouvons rendre témoignage, certes, de ce que nous avons vécu avec le Seigneur, des expériences faites avec lui. Mais le témoignage rendu à Jésus-Christ, il repose sur quoi ? Sur celui des apôtres. Et nous retrouvons ce que nous dit Pierre dans une de ses épîtres. Ce n'est pas par des fables habilement conçues que nous faisons part de ces choses. Mais nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, nous avons vu. Jean aussi dit cela, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie, c'est ça que nous vous annonçons. Le rôle de témoin, au sens premier du terme, c'est le rôle des douze. Et ils avaient à être témoins de ces choses devant toutes les nations. Et finalement, ils avaient à accomplir là ce qu'était la vocation d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils étaient douze. Parce qu'ils représentaient le peuple d'Israël. Ils étaient un petit Israël dans le grand Israël. Et un jour, le peuple d'Israël tout entier sera comme Thomas. Ils verront celui qu'ils ont percé. Et le peuple d'Israël remplira sa vocation. Qui sera aussi d'être témoin à ce moment-là, devant toutes ces nations païennes. Et vous comprenez maintenant un peu mieux aussi le pourquoi de la diaspora. Pourquoi il fallait qu'il y ait des Juifs dans toutes les nations de la terre. Parce que les Juifs qui ont été dans les nations ont jusqu'à un certain point, assimiler l'esprit de ces nations, leur mentalité, leur culture, leur langue. Et quand ils seront, parce que c'est ça leur vocation, pendant le millénium, missionnaires de Jésus auprès des nations, eh bien, ils sauront comment expliquer ces choses. Les Juifs français iront vers les Français. Ils en connaîtront la langue, la mentalité, la culture. Ils pourront expliquer infiniment mieux que ne pourraient faire des gens qui ne connaissent les Français que si c'était des Australiens ou des Papous, n'est-ce pas ? De la même manière, les Juifs russes, les Juifs polonais, les Juifs marocains, les Juifs qui étaient en Afrique noire, en Inde, en Chine, ils iront vers leurs frères, vers les frères des nations, avec le message de l'Évangile. Et là, donc, il y aura cette grande mission, avec aussi le mouvement inverse. Et les nations qui monteront à Jérusalem, aux grandes fêtes, pour être enseignées dans les choses de Dieu. Et pour être enseignées par ces gens-là. Vous avez ça dans l'Apocalypse également. Et c'est le fameux 144 000. Là aussi, évidemment, avec les fameux témoins dits de Jéhovah, c'est pas bon, c'est la grosse controverse. Qui sont ces fameux 144 000 bon. 12 000, nous est-il dit, de toutes les tribus d'Israël. Tiens, tiens. 12 000, c'est un chiffre de plénitude. Et puis, 12 fois 12, 144 000, c'est 12 fois 12 000. Ça veut dire la plénitude d'Israël rachetée. Et là, ces gens-là suivent l'agneau partout où il va. Ils sont les prémices de la terre pour Dieu et pour l'agneau, nous dit le livre de l'Apocalypse. Et là, ils sont les serviteurs fidèles de l'agneau. Quelle est la vocation d'Israël sinon d'être les prémices de la terre? Et bon, il y aurait toute une étude à faire là-dessus, n'est-ce pas? Mais l'Apocalypse souligne le rôle particulier qu'Israël jouera, Israël racheté, Israël rempli du Saint-Esprit, Israël restauré pendant le millénium pour l'évangélisation des nations et pour l'enseignement des nations. Voyez-vous ? Et c'est la raison pour laquelle la terre entière sera remplie de la connaissance de Dieu. Voilà donc, si vous voulez, ici, en gros, comment se déroulera ce règne extraordinaire de 1000 ans. Maintenant, selon ce que nous lisons au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, nous nous rendons compte qu'au bout des 1000 ans, Satan est relâché pour un peu de temps, nous est-il dit. Pour qu'à nouveau il se mette à séduire les nations. Et à nouveau, chose extraordinaire, eh bien, les nations se laissent séduire. Et l'on assiste au bout du millénium à une nouvelle et ultime révolte de l'humanité contre Dieu. Et plus encore, une ultime explosion d'antisémitisme. Car ces nations menées par Gog et Magog, ah, Gog et Magog, là c'est toute la dimension apocalyptique de ces chapitres 38 et 39 du prophète Ézéchiel qui ont servi de base à toutes les méditations des sages d'Israël depuis le prophète Ézéchiel, pratiquement, disons, ça. Et effectivement, Gog et Magog, c'est l'image de l'action de l'adversaire et du déchaînement ultime des forces du mal. Et Gog et Magog entraînent ces nations contre le camp des saints et la ville bien-aimée. Bon, ces deux expressions ne laissent strictement aucun doute sur l'identité de la ville en question, c'est évidemment Jérusalem. alors on peut s'étonner. Comment l'humanité, qui a vécu pendant 1000 ans un règne ou un temps extraordinaire, comme l'humanité n'en a jamais vécu, qui a pu goûter la différence entre les misérables et pitoyables efforts des hommes pécheurs pour établir sur la terre la paix, la justice, le bien, ce qui finalement est l'aspiration des hommes de tous les lieux, de tous les temps. Et puis finalement, toutes ces tentatives se sont soldées par un échec, parce qu'il a voulu construire ce monde sans Dieu, c'est Babel, depuis le début de chapitre 11 du livre de la Genèse. Et quand enfin Dieu intervient et dit « Vous avez été incapable de faire, ben laissez-moi faire maintenant, moi je vais vous montrer ce que moi je peux faire. » C'est un peu, si vous voulez, l'histoire d'Élie au Carmel. Les prophètes de Baal, allez-y, montrez ce que vous savez faire. Et les prophètes de Baal prophétisent pendant des heures et des heures, ils se font des incisions et tout, et tout, et tout. Et finalement, rien ne vient. Bon, à un moment, Élie dit, bon, maintenant ça suffit comme ça, vous avez montré votre incapacité, parfait, maintenant je vais vous montrer, moi, ce que je peux faire. Et le feu du ciel descend. Bien. C'est la même chose. Pendant des millénaires, Dieu a laissé les hommes. Vous voulez faire sans moi? Ben allez-y, faites sans moi. Et vous verrez le résultat. Et quand le résultat est devenu patent, évident, absolument sans contestation possible, à savoir que si le Seigneur n'était pas intervenu, la terre s'autodétruisait, les hommes s'autodétruisaient, et on sait aujourd'hui que c'est possible, n'est-ce pas? On regarde ça, Dieu, lui, par l'intermédiaire du Messie, instaure pendant 1000 ans un temps absolument extraordinaire sur la terre. Et au bout du compte, Dieu dit, maintenant choisissez. Vous avez vu, d'un côté, ce que fait l'homme quand il est conduit par l'adversaire, de l'autre côté, ce que moi je fais quand je prends les choses en main. Choisissez. Et c'est invraisemblable. On est stupéfait quand on lit ce texte. Les hommes choisissent à nouveau le diable, Satan. Leur adversaire, celui qui les a séduits, celui qui leur a menti. Mais on dit, mais c'est pas possible. Alors nous dit l'Apocalypse, le feu descend du ciel, consume les rebelles, et la terre, qui maintenant n'est plus digne d'exister à cause de cette dernière révolte qui est la plus sacrilège de toutes. Car à la limite, dans les autres révoltes, les hommes pouvaient encore avoir l'excuse de dire ce qu'on entend maintenant, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi ce Dieu n'intervient-il pas? Bon, enfin, ce Dieu est intervenu. Et maintenant, ils n'ont plus cette excuse. Et malgré tout, ils tombent encore une fois dans la révolte. Bon, là, c'est fini, c'est terminé. L'aventure humaine prend son point final. Alors, on entre dans l'état éternel. Aolam haba, comme on dit en hébreu, le monde qui vient. La vie éternelle. Et des réalités nouvelles apparaissent. Le ciel même, souillé, disparaît. Et une réalité nouvelle intervient. Hein. Très intéressant, les études qui ont été faites par deux savants russes ces derniers temps, deux physiciens russes, qui sont arrivés à la conclusion, finalement, par la science, de ce que la Bible a toujours dit, à savoir que le ciel et la terre passeront. La terre aussi passera. Ce que dit l'apôtre Pierre. Le ciel, avec ce qu'il renferme, disparaîtra avec fracas. Et alors, pourquoi? Pourquoi toute cette aventure? Qu'est-ce qui restera? Eh bien, scientifiquement, ces savants sont arrivés à la conclusion que toutes ces choses seront recueillies en Dieu, ou dans une autre réalité. Il ne parle pas de Dieu, mais une autre réalité. Finalement, par celui qui les a créés. Par une réalité mystérieuse qui est derrière un voile absolument inaccessible. vers laquelle, en fin de compte, tout retournera. Ils appellent ça, c'est une information qui retourne à sa source, à son origine. Et quand nous disons cela, nous voyons qu'il s'agit là d'une autre réalité, évidemment, dont nous pouvons avoir absolument aucune idée. Et c'est pourquoi la Bible nous en parle en termes imagés. Cette ville extraordinaire de Jérusalem, qui est comme un cube d'or pur avec des pierres précieuses. Enfin bon, là, bien sûr, on se rend bien compte que ce n'est pas des choses qu'on peut prendre au pied de la lettre. Mais une autre réalité, une autre dimension. Donc, l'état éternel. L'état éternel dans lequel, finalement, sera récapitulé tout ce que Dieu estime digne d'être récapitulé de l'histoire de l'univers. Et on trouve, justement, l'état éternel comme une ville, c'est très intéressant. La ville, c'est la construction des hommes. Ce n'est pas un jardin. L'histoire humaine commence dans un jardin et s'achève dans une ville. Ce n'est pas le jardin d'Éden qui est rétabli, même si cette ville a des aspects du jardin d'Éden. Mais c'est la récapitulation de l'histoire humaine, et plus particulièrement de l'histoire d'Israël et de l'histoire de l'Église. Ce n'est pas non plus pas un hasard si cette ville porte le nom de Jérusalem. Si ses portes sont le nom des 12 agneaux, des 12 apôtres de l'agneau et des 12 patriarches. Si, etc. Il n'y a pas de temple, mais... Et on y apporte la gloire des nations à l'intérieur de Jérusalem. C'est quoi la gloire des nations? Ça veut dire ce qui permet de faire connaître la grandeur de Dieu. Ce qui a contribué à faire connaître la grandeur de Dieu, à manifester la grandeur de Dieu. Il est doxologique, je vais m'expliquer. Sotéria, ça veut dire le salut. Ça veut dire le but de l'histoire, c'est pas le salut. La doxa, c'est la gloire. Le but de l'histoire, c'est la gloire de Dieu. Dieu a choisi de révéler, de manifester sa gloire. Quand il a créé l'univers, quand il a créé l'homme, le but, c'était de manifester sa gloire, de rendre sa gloire évidente, sa grandeur, sa majesté, pour toutes les créatures qu'il allait créer. Et le salut, pour important qu'il soit, est un des moyens que Dieu emploie pour manifester sa gloire. Mais ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est la gloire de Dieu. Et ça, c'est très important parce qu'on est milieu évangélique, on a une vision uniquement sotériologique. Et c'est pourquoi tout est centré sur le salut, donc sur l'évangélisation, donc, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Et de fait, la sotériologie, le salut, est un des éléments importants de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas le seul. La gloire des nations, c'est tout ce qui contribue à ces choses. Ce qui est trouvé digne, c'est l'or pur, les pierres précieuses, les matériaux précieux qui sont dignes d'entrer dans la nouvelle Jérusalem. Tandis que ce qui est de la paille, du foin, des matériaux vils, flambe au feu du dernier jour. L'œuvre d'Hitler, on n'en parlera plus. L'œuvre de Mussolini, l'œuvre de Staline, on n'en parlera plus. Celle de Napoléon Bonaparte, de Louis XIV. Mais par contre, on jouera Bach dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem. Il y aura des choses comme ça. Oh, ce ne sera pas le Bach qu'on joue actuellement. Ce sera un Bach infiniment plus pur, infiniment transformé. Mais ce sera quand même avec les matériaux que Bach a fait. Et là, je prends cette image que j'ai souvent prise, vous savez, de cette œuvre particulière de l'œuvre de Bach qu'on appelle l'offrande musicale. L'offrande musicale est née dans les circonstances suivantes. Un jour, le roi Frédéric de Prusse donnait un grand concert à sa cour, et comme beaucoup de ces rois de l'époque, il se piquait de musique. Bon, il était violoniste très très moyen, plus que moyen d'ailleurs. Mais il s'était mis en devoir de composer un morceau qu'il entendait jouer devant ses invités. Et puis, il patinait sec parce qu'il était un musicien très très primaire, très fruste. Quand soudain on lui annonce, Monsieur Bach arrive. Ah, Monsieur Bach, formidable, vous arrivez, entrez donc. Regardez, dit le roi, dit, j'ai composé ici une petite mélodie. Est-ce que vous ne pourriez pas en tirer quelque chose? Et Bach s'est mis au piano, au clavecin. Et sur cette chanson toute simple, cette mélodie toute simple qu'avait composée le roi, que vous connaissez peut-être. La 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 la. C'est tout. Pendant 2 heures, 3 heures, Bach a improvisé sur cette mélodie-là. Les gens en avaient le souffle coupé. C'était absolument extraordinaire ce qu'il a tiré de cette simple mélodie. Et quand ça a été terminé, tout le monde a dit, mais pourriez pas mettre ça noir sur blanc pour qu'au moins on conserve. Et donc Bach a remis en musique, enfin en partition, ce qu'il avait improvisé là. Et il l'a offert donc au roi en disant, c'est en votre honneur, donc pour votre gloire, ce qu'on a appelé l'offrande musicale. Bon, eh bien, si vous voulez, la gloire des nations, c'est ça. Nos pauvres œuvres humaines, aussi frustres que cette petite mélodie du roi, si elles sont faites en Dieu, pour la gloire de Dieu, seront trouvées dignes d'entrer dans la nouvelle Jérusalem. Et Dieu prendra ces pauvres œuvres humaines, y compris le verbeau que nous aurons donné, dit Jésus, n'est-ce pas ? Et il improvisera quelque chose d'extraordinaire sur ce que nous aurons fait. Et ça entrera dans la Nouvelle Jérusalem et dans la construction de la Nouvelle Jérusalem. Voyez-vous ? C'est ça l'état éternel. Dernier point maintenant très important. Pourquoi, à la fin de ce millénium, Satan doit-il être détaché ? Pourquoi le Seigneur ne peut-il pas faire que l'on passe sans transition de l'état avant-dernier à l'état dernier, si j'ose dire ? Du millénium à l'état éternel. Eh bien, pour une raison simple, et que nous allons comprendre tout de suite. Parce que pendant ce temps du millénium, une nouvelle humanité naîtra. Les hommes et les femmes des nations qui entreront dans le millénium enfanteront des fils et des filles. Et ces fils et des filles qui vont vivre dans des conditions qui ferait envie à toutes les générations qui les ont précédées. Non seulement parce que les conditions matérielles seront bien sûr infiniment plus agréables qu'elles ne le sont aujourd'hui et qu'elles ne l'ont jamais été pour les hommes. Parce que la souffrance sera disparue, le mal, le péché et la mort, si elle n'a pas entièrement disparu, sera quelque chose qui aura perdu son caractère terrible. On s'endormira comme ça, et puis bon, on sera très bien où on se réveille, ce sera comme ça. Et vous avouerez quand même que ceux qui naîtront pendant cette période-là auront un sacré privilège sur les autres. Et ils auront, outre ce privilège-là, un autre privilège encore plus grand, c'est qu'ils ne sauront pas ce que c'est que la tentation. Ils ne sauront pas ce que c'est que de lutter contre le péché, ils ne sauront pas ce que c'est que de se déterminer pour le Seigneur. Alors, ils seront dans un état où, à la limite, ils ne seront pas véritablement humains, parce que leur liberté n'aura jamais été testée. Et voilà, à la fin du millénium, à la fin de l'histoire humaine, Dieu à nouveau lâche dans ce paradis terrestre reconstitué, parce que ce sera ça, c'est ce qu'aurait dû être s'il n'y avait pas eu le péché d'Adam, dès le départ. Dieu va relâcher le serpent pour que le serpent aille vers ces hommes et ces femmes qui seront nés pendant ce temps du millénium, comme il est allé vers Adam et Ève au commencement. Ces hommes et ces femmes qui naîtront dans, qui sont nés et qui auront vécu dans l'innocence et qui seront au moins une fois dans leur vie, comme l'a été Satan et Ève, tentés, placés devant un choix, devant la tentation. Et en même temps, nous voyons ici la subtilité du serpent qui, malgré toute cette histoire humaine, malgré tout le recul que les hommes et les femmes de cette époque auront et que Adam et Ève dans le jardin d'Éden n'avaient pas, bien évidemment, donc une infiniment plus grande connaissance que n'avaient Adam et Ève, retomberont aussi lamentablement que sont tombés Adam et Ève, pour la plupart d'entre eux. On peut imaginer que certains ne le feront pas. Mais la grande majorité, nous dit notre texte ici, le feront. Et en même temps, ça nous montre que ces gens-là seront aussi confrontés à la tentation comme nous le sommes. Autrement, ils seraient sauvés avec un privilège extraordinaire sur nous. Comment nous avons dû vivre une vie de souffrance, bagarrer contre la tentation, bagarrer contre le péché pour finalement nous sauver avec peine. Et ces gens-là seraient sur une voie royale, sur des rails, pour arriver tout droit à la vie éternelle. Avouez que par rapport à nous, ce serait injuste. Alors Dieu dit, bon, ben, que eux aussi soient tentés. Il faut donc, ça fait partie du plan de Dieu, il faut que Satan soit relâché pour un peu de temps. Et le lamentable échec, parce que c'est à ça qu'on assiste, de l'humanité de la fin des temps, nous montre finalement ce qui ici apparaît souvent comme une injustice. Pourquoi faut-il que nous, aujourd'hui, nous soyons en quelque sorte de ceux qui subissent les conséquences du péché de nos premiers parents ? Péché qui finalement n'est pas le nôtre. C'est quand même injuste, pourraient dire certains. Pourquoi faut-il que nous soyons soumis à une nature pécheresse que nous n'avons pas choisie ? Pourquoi faut-il que nous soyons soumis à toutes les conséquences de cette nature pécheresse, la fragilité, la souffrance et la mort, alors que c'est une situation que nous n'avons pas choisie et pour laquelle finalement nous ne sommes pour rien ? Eh bien, la réponse, elle est justement à la fin du millénium. Voilà des hommes qui ont été arrachés par la grâce de Dieu aux conséquences de la chute d'Adam et qui sont retournés dans une situation édénique, dans une situation dans laquelle ont été trouvés Adam et Ève avant la chute et qui, malgré toute l'histoire humaine, malgré toutes les expériences de la race humaine, tombent aussi lamentablement que ne l'ont fait nos premiers parents. Ce qui prouve bien que chacun d'entre nous, s'il avait été dans ces conditions-là, et que le péché d'Adam est notre péché. Voilà ce que nous enseigne aussi ce qui se passe à la fin du millénium. Il faut donc que le diable soit délié pour un peu de temps. Et alors, eh bien, bon. Alors évidemment, ça pose la question, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Somme toute, ce n'est pas notre problème. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer dans la porte, à la porte étroite. Et Jésus nous dit que c'est une porte étroite. Et il laisse entendre que de fait, il y a peu qui le trouvent, mais que la voie large est le chemin sur lequel va le grand nombre. Mais ça, ce n'est pas de notre ressort, qu'il y en ait peu ou qu'il y en ait beaucoup. Ce n'est pas ce qui nous concerne, c'est que nous soyons du nombre de ceux-là. Et n'importe comment, le livre de l'Apocalypse nous montre que c'est quand même une multitude. Et c'est pas le grand nombre, mais c'est une multitude. Une multitude que personne ne pouvait compter. Et ça aussi, c'est quand même encourageant. C'est pas dans cette humanité pécheresse, Dieu a su se constituer tout au long des générations, tout au long de l'histoire, un peuple de vainqueurs. Voilà ce que je voulais dire ce soir. La prochaine fois, on abordera la controverse du millénium, n'est-ce pas ? Dans les milieux évangéliques, on se bornera aux milieux évangéliques, hein, parce que autrement ça nous entraînerait tout loin, mais déjà dans les milieux évangéliques, vous verrez qu'il y a matière à... Voilà.